21h à Conakry, à Ouagadougou, 21h à Bamako et à Tamanrasset. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Un an après le renversement du président Morsi par les militaires, les frères musulmans ont appelé à une journée de la colère. Nous reviendrons sur le virus Ebola et l'état du secteur de la santé en Guinée. Reportage, nous serons à Ouagadougou qui fête la culture islamique.
L'islam est une religion de paix, une religion de fraternité, une religion de cohabitation pacifique. Ce n'est pas une religion de terrorisme ou ce que font souvent certains groupes qui assassinent les gens au nom de la religion. Non, l'islam n'est pas cette religion.
Enfin, retour sur le projet Sahara Rocks, un livre pour donner enfin une image positive du Sahel et du Sahara. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Chez Robin Dorcy, au studio 13 de La Voix de l'Amérique. Retombée des récentes municipales au Sénégal, la chef de gouvernement Aminata Touré a été démise de ses fonctions selon des membres de son entourage cités par l'agence France Presse. Aminata Touré était première ministre du Sénégal depuis septembre 2013. Son départ intervient moins d'une semaine après sa défaite aux élections municipales dans sa circonscription à Dakar. La liste dirigée par Mme Touré a été devancée par la coalition dissidente du maire sortant de Dakar, Khalifa Sall, selon la presse locale. Les résultats officiels de ces élections locales étaient toujours attendus vendredi soir, souligne l'agence France-Presse. En République centrafricaine, la présidente de la transition a annoncé que le réaménagement technique du gouvernement se fera finalement après le prochain forum de Brazzaville sur la RCA. Catherine Samba-Panza.
L'importance que j'accorde à la tenue de ce dialogue, prévisible depuis quelques semaines déjà, m'a amené à sursoir au réaménagement du gouvernement que j'avais annoncé. Le gouvernement actuel poursuivra donc sa mission jusqu'à la fin du forum de Brazzaville. Je tiendrai ensuite compte des nouvelles donnes issues de Brazzaville pour configurer un nouveau gouvernement.
Par ailleurs, les activités ont repris au village de Kono, à l'est de la RCA. Dans l'est de la RCA, des affrontements ont opposé au début de la semaine des membres de l'ex-Selika à des soldats des forces armées ougandaises, faisant 15 morts dans le rang des ex-rebelles. Pour le moment, le village est passé entièrement sous contrôle des militaires ougandais. Le secteur minier centrafricain demeure sous le contrôle du gouvernement malgré la présence des groupes armés dans certaines zones. Le pays négocie actuellement son retour dans le système de Kimberley. C'est ce qu'a indiqué le ministre centrafricain des mines, Eric Malibangar.
Comme vous le savez, depuis le mois de mars-avril 2013, le processus de Kimberley a prononcé une suspension temporaire de l'exportation de nos diamants. Et cela est fort pénalisant. Nous ne croisons pas les bras, nous travaillons à ce que très rapidement cette situation puisse passer à une phase de levée peut-être temporaire également pour que nous puissions effectivement retrouver la normalité.
Le ministre des Mines de la République centrafricaine, Eric Malibangar, joint par Félix Yepassis Zembro. 4 Égyptiens soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste sont morts aujourd'hui en manipulant des explosifs et un adolescent a été tué dans des heurts entre la police et des manifestants, ont annoncé les responsables de la sécurité cités par l'AFP. La police avait dispersé hier plusieurs manifestations à l'appel des frères musulmans à l'occasion d'une journée de la colère un an après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi. Au Nigeria, le gouvernement assure qu'il fait des progrès dans la recherche et la libération éventuelle de plus de 200 lycéennes enlevées par les extrémistes islamistes de Boko Haram en avril dernier. Mais Bashiru Yusuf, porte-parole du groupe d'activistes qui n'a cessé de fustiger les efforts des autorités depuis le rapt, souligne que la vigilance reste de rigueur tant que les lycéennes ne seront pas libres. Un kamikaze a fait exploser aujourd'hui une charge placée à bord de son véhicule à une position de l'armée au nord de Bagdad en Irak, faisant au moins 15 morts, dont des soldats, et 25 blessés. En Ukraine, le président Petro Poroshenko a déclaré que son gouvernement est prêt à tenir demain une nouvelle série de négociations avec les dirigeants des séparatistes de l'Est et les autorités russes. Ce 4 juillet ramène le 238e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Partout à travers le pays, les Américains célèbrent avec des défilés, des pique-niques, des feux d'artifice, des rodéos et des concerts. À cette occasion, le président Barack Obama a mis l'accent sur la diversité qui a marqué toute l'histoire de l'Amérique.
Those early patriots may have come from different backgrounds and different walks of life, but they were united by a belief.
Monsieur Obama souligne que les pères fondateurs, ces premiers patriotes, ne partageaient pas les mêmes origines, mais ils étaient unis par leur foi en une simple vérité, que nous avons tous été créés égaux. Dans un message au président Obama, le président russe Vladimir Poutine a émis le vœu de voir de meilleures relations s'établir entre Washington et Moscou, signalant aussi que cette année, les festivités du 4 juillet pourraient être perturbées en certains endroits de la côte Est par la première tempête de la saison, l'ouragan Arthur. C'est la fête du football au Brésil. Les quarts de finale de la Coupe du Monde ont commencé cet après-midi à Rio de Janeiro. France-Allemagne au Temple du Foot, le célèbre Maracana de Rio. Rendez-vous manqué avec l'histoire pour les Bleus. Une victoire 1-0 pour la sélection allemande qui attend maintenant le vainqueur du duel sud-américain de ce soir entre le pays hôte, le Brésil, et la Colombie. Le Brésil mène par 1-0, but de Thiago Silva, inscrit à la 7e minute de jeu.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus. En Égypte, les frères musulmans ont appelé hier à une journée de la colère pour marquer le premier anniversaire du renversement du président Mohamed Morsi par les militaires. Un coup d'État suivi d'une répression violente qui a presque décimé le groupe islamiste. Michel Joseph.
Le mouvement des frères musulmans a été déclaré organisation terroriste et beaucoup de ses leaders, dont Mohamed Morsi, ont été incarcérés. Le tombeur du premier président démocratiquement élu d'Égypte, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi, a troqué l'uniforme contre le costume pour ensuite se présenter et remporter la présidence. Malgré la répression dont ils ont fait l'objet, les islamistes se sont joints à leurs alliés pour continuer leurs protestations, tentant ainsi de rendre le pays ingouvernable pour Sissi, estime l'AFP. Depuis le renversement de Morsi le 3 juillet 2013, au moins 1400 personnes ont été tuées dans les affrontements de rue et plus de 15 000 autres emprisonnées. Le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badié, a été condamné à mort dans un procès collectif plutôt rapide. Et puis, des militants ont lancé une série d'attaques qui ont tué plusieurs centaines de policiers et de soldats, surtout dans la péninsule troublée du Sinaï. Le gouvernement accuse les frères musulmans qui le démentent. Pour les groupes de défense des droits de l'homme, la récente répression a été plus sanglante en Égypte depuis des décennies, rappelle l'AFP. Cet anniversaire du renversement de Morsi coïncide avec le mois de Ramadan en Égypte, où les gens sont préoccupés non seulement par la situation dans leur propre pays, mais aussi dans la région où d'autres musulmans souffrent. Le marchand de rue Mohamed Marwan, actualité oblige, pense à l'Irak et à la progression fulgurante des militants islamistes sunnites. Dieu sauve l'Irak des Américains et de l'État islamique en Irak et au Levant et de tels problèmes. Franchement, nous souffrons beaucoup pour nos frères en Irak et en Syrie. Pour sa part, Om Walid se félicite du calme relatif dans son pays cette année. Il y a une grande différence. Au moins cette année, nous sommes plutôt optimistes. L'année dernière, c'était la destruction qui prévalait. Et nous ne pouvions vraiment jouir de ce que nous avions à manger à la rupture du jeûne. Pour leur part, les frères musulmans ont appelé à une journée de la colère pour marquer le premier anniversaire du renversement du président Mohamed Morsi par les militaires.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 102 FM à Bamako. Après la réunion ministérielle d'urgence sur le virus Ebola qui a eu lieu cette semaine à Accra, au Ghana, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, réclame au ministre ouest-africain de la Santé des mesures concrètes pour mettre un terme à la propagation de la maladie dans la région. Jean-Roger Bion.
Keiji Fukuda, directeur général adjoint de l'OMS, a exprimé hier sa confiance que l'épidémie peut être endiguée. Dans une interview avec l'AFP, il a déclaré que l'on est confronté à l'épidémie d'Ebola la plus compliquée qui ait jamais éclaté en raison de sa rapide propagation à la fois dans les zones urbaines et rurales. Le dernier bilan de l'épidémie établi par l'agence onusienne est à 467 décès répartis entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. 11 pays africains sont représentés à la conférence d'Accra. La fièvre à virus Ebola, qui est hautement contagieuse, se propage par contact direct avec du sang ou d'autres fluides corporels d'une personne infectée. Selon l'OMS, les croyances traditionnelles, notamment le fait que les familles veulent personnellement enterrer leurs morts, entravent les efforts visant à juguler l'épidémie. Il n'existe aucun traitement ni vaccin spécifique contre le virus Ebola.
Pour faire suite à cette crise, CL+ a choisi de comprendre un peu mieux les défaillances du système de santé en Guinée. Quels sont les problèmes majeurs? Écoutons le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Des problèmes, le système de santé guinéen les connaît. Les produits de santé, les technologies médicales ou encore les ressources humaines. Il y a un manque de médecins à l'intérieur du pays, s'est indigné le président Alpha Condé.
Je viens de l'intérieur, j'ai constaté l'absence criarde des médecins à l'intérieur. Presque tous les médecins sont concentrés à Conakry. Nos établissements sont vétustes, mal équipés. Et très souvent, on se demande à quoi sert le peu de moyens qui est mis à la disposition de la médecine.
Le président guinéen va ensuite demander la participation des personnes malades pour enrichir les débats, comme ici Ahmed Camara.
Pendant à lui, je ne sais pas si c'est les bénévoles, c'est sûr qu'ils sont très méchants avec nous. Quand la nuit tombe, les vrais docteurs rentrent à la maison. Tu vas crier, personne ne viendra au secours. Ça, ça fait mal.
En réponse, le directeur du CHU Ignace Dine promet un changement pour soulager les patients. Docteur Awada.
Il faut reconnaître qu'il y a des comportements néfastes de la part de certains collaborateurs. Je peux vous rassurer que les mesures sont en train d'être prises pour que de tels faits qui portent préjudice à l'intégrité et à la personnalité des personnels de santé fassent une mauvaise tache d'huile.
Malgré le projet Médicaments pour tous qui vise 408 centres de pays, le système de santé guinéen n'arrive pas à répondre aux besoins de santé des Guinéens. Et le président Condé te dénoncer notre santé est malade. Beaucoup de médecins sont des commerçants. Il faut oser mettre le couteau dans la plaie. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été baptisée pour cette année 2014 capitale de la culture islamique par l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, qui est l'équivalent de l'UNESCO dans le monde arabo-musulman. C'est le premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw qui a donné le top départ des activités, avec à ses côtés le directeur général de l'ISESCO, Abdelaziz Altadjeri. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Quand un pays laïque s'offre comme hôte de la célébration de la culture d'une religion, l'islam en l'occurrence, cela ne va-t-il pas remettre en cause sa laïcité? C'est la question que nous avons posée au ministre burkinabé de la culture au lancement des activités faisant de Ouagadougou la capitale de la culture islamique. On écoute la réponse du ministre Baba Hama.
Toutes les religions au Burkina Faso ont toute la latitude de mener leurs activités sans que cela n'interfère dans le fonctionnement, j'allais dire, régalien de l'État. Pendant toute cette année qui va être l'année de la célébration de la culture islamique, il y a un certain nombre d'activités qui vont même dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du soutien aux femmes pour leur donner les possibilités d'avoir des activités rémunératrices.
Le thème de cette célébration de la culture islamique est promouvoir le dialogue interreligieux, ferment de paix et de cohésion sociale. Comment se vit le dialogue interreligieux au Faso? Suivons des exemples avec Alidou Ilboudou. Il est l'imam de la mosquée des élèves et étudiants du Burkina.
Au niveau, par exemple, du monde étudiantin, trois associations, l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina, la GEC et puis le GBU, le groupe biblique et puis les catholiques, se sont réunis pour créer par exemple le comité mixte interreligieux où les étudiants qui se partagent l'espace universitaire, parce que c'est sur l'université, dans les écoles, qui doivent mener des activités, bon, se concertent pour voir comment vraiment travailler ensemble. À Douri, dans le nord du Burkina, il y a l'UFC, l'Union Fraternelle des Croyants, qui est une organisation qui regroupe des catholiques et des musulmans, et ils mettent ensemble des projets communautaires de développement. Au niveau national, nous avons par exemple l'USCB, l'Union des religieux ou coutumiers du Burkina, qui est une organisation où toutes les composantes religieuses et coutumières travaillent ensemble à mettre des projets aussi sociaux de développement et de lutte contre les grandes pandémies.
Ces temps-ci, l'image de l'islam est écornée par des agissements de groupes terroristes se réclamant de cette religion. Le directeur général de l'ISESCO s'élève contre. On écoute le DG Abdelaziz Altouadjeri.
الإسلام دين السماحة والرحمة والتعاون وليس دين القتل والإجرام الذي تقوم به الجماعات المتطرفة.
Donc l'islam est une religion de paix, une religion de fraternité, une religion de cohabitation pacifique. Ce n'est pas une religion de terrorisme ou ce que font souvent certains groupes qui assassinent les gens au nom de la religion. Non, l'islam n'est pas cette religion.
ولذلك فنحن نشجع الشباب في بوركينا فاسو على اختلاف انتماءاتهم الدينية والثقافية أن يعملوا لبناء وطنهم وأن يكون بينهم المحبة والتعاون والاحترام المتبادل.
C'est pourquoi nous interpellons, nous appelons la jeunesse burkinabé en dépit de leur diversité religieuse, leur appartenance culturelle, de travailler toujours ensemble à consolider cette paix, à consolider cette cohabitation pacifique et culturelle entre les différentes religions.
C'est pourquoi, à la manière du pasteur Martin Luther King, le premier ministre burkinabé, Luc Adolphe Thiaw, a fait un rêve.
Nous constatons malheureusement qu'il y a des dérives en Afrique. Vous voyez, c'est passé en Centrafrique, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Nigeria. Ça veut dire que nous pouvons mieux vivre ensemble, comme c'est le cas au Burkina Faso. C'est pourquoi mon rêve, c'est que l'Afrique soit comme le Burkina Faso.
Zoubana Onogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Et c'est avec Nabil Othmani et le morceau Africa Touareg que nous ouvrons notre page culture pour revenir sur le projet du livre Sahara Rocks. Le journaliste Arnaud Contreras essaye de récolter des fonds pour mener à bien la publication de cet ouvrage qui veut donner une image positive du Sahel et du Sahara. Arnaud Contreras.
L'image qu'on voit en Occident du Sahel ou du Sahara, c'est d'abord, on les voit par les mauvaises nouvelles. On voit beaucoup les mauvaises nouvelles, les nouvelles de guerre, les nouvelles de rébellion, les nouvelles d'enlèvement, d'otages. Enfin, voilà, ça représente, je dirais que toute la population au Sahara et au Sahel est un petit peu otage de cette image qui est négative. Moi, j'ai envie de montrer que la vie continue, que les gens sont conscients de tout cela, mais la vie continue, et notamment grâce à la musique qui véhicule à l'extérieur une image positive. Aujourd'hui, en 2014, les musiciens sahariens sont les seuls à offrir une image positive du Sahara et du Sahel. Ce sont les seuls émetteurs de bonnes nouvelles. Tout le reste, ce sont des mauvaises nouvelles du Sahel. Alors qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de belles choses dans le domaine culturel, dans le domaine associatif. Là, je voyais qu'il y avait hier, il y avait une réunion de start-up à Niamey, de jeunes entrepreneurs, pas dans le domaine culturel, dans le domaine vraiment du business, qui se réunissaient à Niamey. Enfin voilà, il se passe des choses. Voilà, après chaque voyage au Sahel ou au Sahara, quand je rentre en France ou quand je vais aux États-Unis, j'ai l'impression que cet aspect-là du continent n'est pas exprimé. Et j'ai vraiment envie de le faire passer parce que ça correspond à une réalité. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, loin de là.
Voilà, si vous souhaitez contribuer à ce projet, une seule adresse, le site internet fr.ulule.com/saharoc. Hier, j'ai dit ululé, je l'ai un petit peu africanisé. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter ce lien, retrouvez-le sur notre page Facebook VOA Sahel+. Sahel+, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Wagner Roberts. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Bombino et son titre Ténéré. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.